Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
CP, session 2023, plus de 376 000 candidats ont débuté les épreuves ce matin. Revue annuelle de la politique nationale de développement, les résultats engrangés en 2022 sont bons, mais il y a des points à améliorer. Au Bénin, les membres de la nouvelle Cour constitutionnelle ont prêté serment ce 6 juin 2023 au Palais de la Marina devant le chef de l'État, Patrice Talon. À l'unanimité, ils ont désigné le professeur Dorothée Sossa comme président. La Cour, installée pour 5 ans, va gérer la conformité des élections générales de 2026, législatives et présidentielles. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, c'est parti pour la session 2023 du certificat d'études primaires. On enregistre 376 275 candidats inscrits, dont 208 901 filles et 167 374 garçons. Selon le ministère en charge des enseignements, on note une baisse de 14,75% du nombre de candidats par rapport à la session de l'année dernière. À Ouagadougou, une équipe de Oméga Média a sillonné quelques centres de composition de la capitale pour s'assurer du bon début des épreuves écrites. Dans l'ensemble, tout se passe bien et les élèves trouvent que les premiers sujets sont abordables. Suivez le reportage de Marina Ouedraogo et Yaya Zongo.
C'est parti pour les examens du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e session 2023 sur l'étendue du territoire national. À Ouagadougou, précisément dans le centre de Kossiam A, au jury numéro 1 de Nagrin, ils sont au total 262 candidats, dont 177 filles et 92 garçons à la conquête de ce premier parchemin. Pour la présidente du centre, tout se passe bien, pas d'incident majeur à noter. Sylvie Zongo.
Tout s'est bien passé, tout que jusqu'à présent, il n'y a pas de problème majeur, tout se passe bien. Ce matin, à 7h20, on a ouvert la première enveloppe qui était la rédaction. Les candidats ont commencé à composer à 7h30 et puis l'épreuve a pris fin à 8h30. La deuxième épreuve, c'était la dictée.
Cependant, dans ce même jury numéro 1, on constate 4 absences, 2 filles et 2 garçons. Ce n'est pas la mer à boire, affirment les candidats présents au sujet des premières épreuves de ce CEP 2023.
Les épreuves, je crois que c'était de Prado qu'on nous a donné. Oui, c'était abordable.
Avec moi, les épreuves, c'est facile. Ce qui m'a surpris, c'est la rédaction. La rédaction a été facile. C'est ça qui m'a... Et puis dictée, étude de test, c'était facile. Vraiment, je prie que Dieu nous donne tous.
J'espère que la rédaction était bonne et la dictée. J'espère que je vais avoir mon CEP.
Les épreuves écrites du CEP se poursuivent jusqu'au 8 juin.
Dans la région des Hauts-Bassins, ce sont au total 53 000 candidats qui affrontent ces épreuves, dont la première enveloppe a été ouverte par le commissaire de la province du Houé à l'école Colman de Bobo-Dioulasso. Ndiaye Ouedraogo était présente.
Très tôt ce matin, les élèves ont répondu présents à l'appel à l'école Colman de Bobo-Dioulasso où a eu lieu le top départ du CP par le haut commissaire de la province du Houé. Avant toute autre chose, Adama Bidiga, accompagné d'une forte délégation, a tenu à encourager les futurs collégiens.
Il y a certainement, en tout cas, certains élèves EDI qui n'ont pas eu cette chance. Et si aujourd'hui, les élèves des Hauts-Bassins composent, c'est pour nous, en tout cas, un devoir de venir les soutenir. Et aussi espérer que nous puissions avoir de bons résultats. Dans l'ensemble, j'ai pu constater en tout cas des élèves très motivés.
Ayant préparé cet examen depuis le début de l'année scolaire, des candidats se disent enfin prêts pour cette composition.
Je m'appelle Sambo Yvana Myriam, je suis en classe de CM2 Colmaï. Je suis prête et me suis bien préparée. J'ai appris mes leçons. En classe, le maître nous a posé des questions. Il a dit qu'on a quand même s'attendre à l'examen. Je n'ai pas peur, je suis prête.
Je m'appelle Sana Abdoul Nour, école Colman I, classe CMD. J'ai bossé jour et nuit depuis samedi passé. En classe, notre maître nous a donné à apprendre des leçons, à lire et à écrire. Il nous a posé des questions. Aujourd'hui, c'est le CP et nous sommes prêts.
Toutes les précautions sont prises pour le bon déroulement des épreuves, a rassuré le directeur régional de l'éducation préscolaire primaire et non formelle présent sur les lieux, Zachary Zouré.
Donc l'examen aujourd'hui, nous sommes très très heureux parce que les circonstances dans lesquelles ça se tient, et il a fallu beaucoup d'efforts. Vraiment un grand, grand, très grand remerciement à nos FDS parce que sans eux, on aurait pu avoir beaucoup de problèmes. Tout est ok par la grâce des forces de l'ordre. Des escortes ou des chemins sont quelquefois difficiles, mais grâce à leur bravoure, à leur courage, à leur détermination pour l'avenir des enfants. Parmi les on a beaucoup de candidats déplacés internes. En tout cas, ils sont pris en charge, même sur le plan alimentaire. Nous avons même des centres d'examen déplacés, délocalisés. Nous avons au moins 7 à 8 centres délocalisés.
Donnant accès à l'enseignement secondaire, notamment au collège, la session 2023 du CEP voit la participation de 53 000 candidats, dont 28 697 filles et 24 397 hommes, répartis dans 236 centres de composition dans la région de Haut-Bassin. Ndessanou Bobo, Radio Omega.
Le Centre-Ouest présente pour cette session 2023 plus de 48 000 candidats. Malgré la crise sécuritaire, les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet examen. Les autorités de la région ont encouragé ces élèves ce mardi à Ramongo, dans la province du Burkiyemdé, lors du lancement des épreuves. Compte rendu, Sabuna Ouedraogo.
C'est à l'école Tanguin A de Ramongo que les autorités sont allées encourager les élèves qui composent la session 2023 du certificat d'études primaires. À l'image de Roxane Valia, ces apprenants espèrent avoir leur premier diplôme scolaire cette année.
J'ai traité beaucoup d'exercices de français et d'histoire. Je suis sûr que je vais avoir le CEP.
L'an dernier, la région du Centre-Ouest a présenté plus de 50 000 élèves à cet examen. Mais pour cette session, ils sont moins de 49 000. La principale cause de cette baisse du nombre de postulants au CEP 2023 s'appelle l'insécurité, avec la fermeture d'une centaine d'écoles. Adjaratou Sawadgo, directrice régionale en charge de l'enseignement primaire au Centre-Ouest.
Cette année a été une année particulière, mais nous félicitons tous les acteurs qui ont œuvré pour que nous puissions maintenir ces 48 000 candidats pour leur permettre de passer leur parchemin.
Grâce justement à l'effort de ces acteurs, le CEP se déroule bien dans l'ensemble et les autorités de la région ont tenu à encourager les aspirants et les invités à donner le meilleur d'eux-mêmes pour honorer la région du Centre-Ouest. Séverin Sommet est le secrétaire général de la région du Centre-Ouest.
Ils ont appris au cours de l'année scolaire un certain nombre de leçons et je leur ai dit effectivement de ne pas paniquer parce que ce n'est qu'un examen.
Au certificat d'études primaires de l'année dernière, le Centre-Ouest a réalisé un taux de succès de 59,08%. Cette année, les autorités ont bon espoir que la région fera mieux à l'issue de la session dont les premiers résultats sont attendus à partir du 17 juin. Sabuna Ouedraogo, de retour de Ramongo pour Radio Omega.
Après Kudugu, direction la province du Yoba, où ils sont plus de 6 000 candidats qui composent. Et c'est le secrétaire général de la province qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe des épreuves écrites dans le centre de composition de Paï. Suivons les explications de notre correspondant sur place, Ouaboué Bakouan.
357-388, sommet Yves Romial.
C'est l'appel des candidats au CEP et au concours d'entrée en 6e au centre de composition de Kouaï dans le département de Koper ce 6 juin. Comme eux, 3159 filles et 2858 garçons prennent part à la présente session au Yoba. Le secrétaire général de la province du Yoba, accompagné des deux directeurs provinciaux de l'éducation, a procédé à l'ouverture de la première enveloppe. André Lankwande, surveillant d'un jour.
Épreuve de rédaction, durée 1 heure, 10 points. Sujet, dans ta famille, il y a eu une fête.
Bien avant ce cérémonial, la délégation a passé de salle en salle, encourager les candidats. André Lankwande.
L'examen, c'est aussi une manière pour nous d'adresser un message à l'ensemble des acteurs de l'éducation dans la province. Souhaiter que cette session se passe tranquillement et qu'à la fin, nous avons de bons résultats.
Selon Adama Neya, directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yoba, les candidats composent dans 10 jurys répartis dans 30 centres. Et M. Neya se dit satisfait de l'organisation.
C'est tout à fait normal qu'on ait des appréhensions, mais je pense qu'aujourd'hui, ce matin, nous sommes satisfaits vu les informations que nous avons reçues des différentes présentes de jurys. Nous pensons que tout se déroule bien.
Ainsi, les candidats ont 3 jours pour valider leur ticket d'accès au poste primaire. Danou Wabwebakouan, Radio Omega.
Ce lundi était jour d'examen à l'Université de l'Unité africaine. Plus de 1000 étudiants composent depuis hier et ce jusqu'au samedi prochain leur examen de second semestre. Sont concernés par cette composition les étudiants de la première à la troisième année de licence de la vingtaine de filières qu'offre l'Université. Je vous invite à vivre les premiers instants de cet examen avec Yaya Diomandé.
La sérénité, le sérieux.
Ce sont là les derniers consignes du PCA Ahmed Moussa Diallo aux étudiants avant le début des épreuves. Cet examen est le dernier de l'année académique et représente pour certains étudiants une opportunité pour valider leur année d'apprentissage. Shida Sawadgo est un étudiant.
Particulièrement, je ne stresse pas trop. Bon, vu que c'est quelque chose qui était déjà programmé et qu'on devait réviser pour venir composer et valider, je pense que c'est moi en tout cas, alhamdoulilah, ça va.
Fadila Nere, étudiante.
Je ne mets pas une certaine pression parce que bon, c'est des trucs aussi qu'on a eu à faire tout au long de l'année en classe, donc pour moi il n'y a pas de souci. Bon, la préparation s'est faite, on va dire, au fur et à mesure. Voilà, je n'ai pas attendu la dernière minute pour commencer à réviser. Je pense que c'est pour ça que je suis sereine comme ça.
Espace pour garder les sacs, des salles sous vidéosurveillance en plus de la présence de plusieurs surveillants par salle. Toutes les conditions ont été réunies pour un bon déroulement des épreuves. L'ambition de l'université est claire, atteindre un taux de réussite de 100%, soit une réussite des 1005 étudiants qui composent. Alioun Benga est le directeur général de l'Université de l'Unité africaine.
C'est possible. Il suffit tout simplement que les étudiants se mettent au travail, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ces étudiants qui intègrent l'Université de l'Unité africaine, moi je suis convaincu qu'ils ont la capacité de réussir parce que tous les moyens sont mis à leur disposition. Ils sont dans d'excellentes conditions de travail, dans un environnement favorable. Donc ce qui reste à faire, c'est de travailler.
Débuté ce lundi, cet examen va se poursuivre jusqu'au samedi à raison de 2 épreuves par jour. Cette dernière composition annonce la journée de graduation, journée lors de laquelle l'université célèbre l'excellence, prévue se tenir le 2 juillet prochain.
Le secrétaire exécutif de la politique nationale de développement a tenu aujourd'hui la revue annuelle de la politique nationale de développement. Cette activité a réuni les membres du gouvernement de transition avec à leur tête le Premier ministre, les gouverneurs des régions et les représentants de la société civile et du secteur privé. Cette session de l'année avait pour thème « Quel bilan de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2022 ?» Plus de précisions avec Solomon Nikema.
Le plan d'action pour la stabilisation et le développement se base sur 4 piliers. Le premier pilier consacré au terrorisme et le taux d'exécution est de 59% en 2022. En ce qui concerne la réponse efficace à la crise humanitaire qui est le deuxième pilier, le taux d'exécution est d'environ 80%. La refondation de l'État qui est le troisième pilier enregistre 62%. Et le pilier 4, axé sur la réconciliation nationale, note 61% en 2022. Aboubacar Nakanabo, ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective.
Nous avons examiné les résultats engrangés en 2022. Il ressort qu'il y a eu beaucoup de performances qui ont été réalisées, mais il y a encore des points sur lesquels il faut travailler davantage. Nous sommes à 63% de réalisation, ce qui est appréciable, mais qui montre aussi qu'on peut encore faire mieux dans tous les domaines.
Aboubacar Nakanabo affirme que des actions seront également menées pour cette année 2023 en lien avec les 4 piliers du plan d'action pour la stabilisation et le développement.
Alors, en 2023, il y a beaucoup d'actions qui vont être mises en œuvre en fonction des piliers. Sur la question de la sécurité, vous avez vu qu'il y a eu la réorganisation de l'armée pour un meilleur maillage du territoire, ce qui va permettre de faire face à la crise sécuritaire. Sur le plan de l'action humanitaire, des réalisations à venir, c'est renforcer davantage les appuis au niveau des personnes déplacées internes. Pour la gouvernance, vous avez vu que nous avons engagé beaucoup de chantiers de dématérialisation des procédures. Nous sommes convaincus que la dématérialisation est une réponse adéquate à tout ce qu'on a comme problème de gouvernance.
Les représentants de la société civile, des gouverneurs, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé ont félicité le gouvernement pour les résultats engrangés sur le terrain. Ils ont par ailleurs formulé des recommandations pour l'amélioration du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023.
Au Bénin, les membres de la nouvelle cour constitutionnelle ont prêté serment ce 6 juin 2023 au palais de la Marina devant le chef de l'État, Patrice Talon. La plus haute juridiction compte 7 membres, des magistrats, des juristes et des personnalités de grande réputation professionnelle. La cour constitutionnelle est le gardien de la Constitution et un recours pour les citoyens qui se sentent brimés. Aussitôt installé, la cour a élu le professeur Dorothée Souza comme président. Ce dernier fut secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OADA de 2011 à 2019. On ne peut pas dire de cet avocat agrégé de droit privé qu'il est un proche du chef de l'État. Néanmoins, au lendemain de la crise post-électorale de 2019, ce dernier l'a sollicité comme facilitateur pour conduire le dialogue national, un dialogue boycotté par l'opposition. Le nouveau président de la Cour est entré deux fois dans le gouvernement de l'ex-président Mathieu Kérékou, version renouveau démocratique, comme ministre de la Justice et de l'Enseignement. La Cour, installée pour 5 ans, va gérer la conformité des élections générales de 2026, législatives et présidentielles. L'institution et son président sont attendus sur le chemin de l'impartialité et de la protection des droits et libertés des citoyens.
La revue de presse.
La situation au Sénégal, qualifiée de crise de folie par les journaux du jour, qui invite à conjurer les affres d'un nouvel embrasement. Au plan national, la presse encourage l'État à faire de chaque Burkinabé un acteur de développement économique. Et dans notre contexte sécuritaire actuel, elle invite non seulement le gouvernement à recouvrer l'intégrité du territoire, mais aussi et surtout tenir les élections comme stipulé dans la charte de la transition. La revue de presse de ce jour est présentée par Brigitte Yoda.
Alors que l'on ne sait exactement quand est-ce que le pays va recouvrer entièrement sa sécurité, le gouvernement de la transition actuelle ne semble pas prêt à entamer une quelconque consultation électorale, commente l'Express du Faso après la sortie du Premier ministre lors de son discours sur la situation nationale le 30 mai dernier. Faut-il s'attendre à une prolongation de la transition en cours ? Questionne le journal Bobolais qui ne se fait plus d'illusions. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, le doute se dissipe de plus en plus. Ceux qui n'étaient pas venus pour demeurer au pouvoir voudront finalement s'y éterniser. En tout cas, les conclusions de la charte de la transition ont été claires lors des assises nationales des 14 et 15 octobre 2022. Le recouvrement de l'intégrité territoriale, le retour progressif des personnes déplacées internes et surtout l'organisation des prochaines élections en juillet 2023, insiste l'Express, pour qui le destin d'une nation ne devrait rester éternellement dans les mains d'un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences et leurs forces. Et sauf changement de calendrier, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, va procéder le 12 juin prochain à Ouagadougou au lancement officiel du programme de l'entrepreneuriat communautaire, nous informe le quotidien. Mise en œuvre par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, une structure portée sur les fonds baptismaux en mars 2023 par le gouvernement burkinabé. C'est une opportunité offerte aux Burkinabés de toutes les couches de souscrire à des paniers de projets de sorte à participer à leur financement grâce à l'actionnariat populaire, c'est-à-dire que chaque Burkinabé a la possibilité de prendre des parts, de devenir copropriétaire de ses entreprises, se réjouit Le Quotidien, qualifiant l'initiative de salutaire. Et au Sénégal, les violences meurtrières liées à la condamnation de Sonko sonnent comme un air de déjà-vu pour le pays. Macky Sall, dans les mêmes circonstances en 2011, avait appelé ses compatriotes à descendre dans la rue contre Abdoulaye Wade, rappelle l'observateur Palga, qui traite de fous ces intellectuels et autres cadres de partis politiques qui incitent à la haine et à la violence. Il qualifie également de fou le président Macky Sall, himself, habité par la tentation d'un troisième mandat problématique. « Monsieur le Président, on attendait mieux de votre part », se désole le doyen des quotidiens. Aujourd'hui, au Faso pour sa part, entre justice et diplomatie souterraine, appelle à conjurer les affres d'un nouvel embrasement.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Je peux dire que c'est parti d'un constat qu'il y a beaucoup de dérives, de manquements sur les médias sociaux et les émissions d'expression directe. Donc, il faut dire que, il faut retenir que le Conseil sur la communication, pour le moment, ne régule pas les réseaux sociaux. Nous ne régulons que les médias professionnels, d'information professionnelle. Donc, ça fait que, il y a un secteur qui est un peu laissé pour compte, qui est le secteur des réseaux sociaux. Après, aujourd'hui, c'est le principal secteur d'approvisionnement, en tout cas du public à l'information actuellement. Ça fait que c'est un secteur qui était beaucoup resté. Il fallait qu'on travaille à combler le vide, je dirais, à toi qui constatait au niveau du secteur des réseaux sociaux. Parce que même si on régule les professionnels, s'il y a un secteur qui est là, qui n'est pas régulé, et qui continue de polluer, donc ça va dépendre sur l'activité des professionnels.
Et est-il possible de nous expliquer le point 2?
Oui, le point 2 des conseils là, il est dit que citoyens burkinabés faisons preuve de bon sens et d'esprit critique quand nous recevons des informations sensationnelles, surtout si elles émanent de personnes qui ne sont ni liées aux faits, ni aux professionnels. Donc ça fait appel au bon sens et à l'esprit critique. Donc, c'est une approche pour, en tout cas, rappeler aux gens que dans toute chose, il faut l'esprit critique, il faut le discernement.
Qu'est-ce que le citoyen burkinabé risque en partageant des informations non fiables ou incitant à des violences?
Effectivement, les 10 conseils là, c'est vrai que ce sont des conseils, mais c'est inspiré de nos valeurs morales, des valeurs de sagesse. Mais il faut aussi dire que c'est inspiré aussi des dispositions qui existent déjà dans la loi. Ça existe un peu par exemple les conventions que le CSC lit avec les médias. Ce sont les dispositions qui sont dedans. Et puis aussi, si vous prenez la loi sur les lois sur le juridique des médias au Burkina Faso, vous allez trouver qu'il y a des indications qui y sont.
Y a-t-il déjà eu des manquements observés sur les antennes des émissions interactives?
Évidemment. Je crois que bientôt on va faire sortir des bilans. Si vous consultez un peu nos rapports, mais tout récemment, vous êtes au courant qu'il y a des personnes qui se sont en tout cas proclamées comme étant des terroristes, qui ont eu accès à l'une de nos émissions interactives ici, qui ont eu l'occasion de faire leur propagande en faisant des appels pour démobiliser peut-être les citoyens à soutenir des actions allant à leur encontre. Voilà, donc il y a ces cas, il y a aussi au niveau de l'actualité politique, il y a beaucoup de cas d'émissions de propos qui, soit la diffamation, soit des propos injurieux, mais des propos séditieux. Voilà, qui sont à trois quarts les gens en ce qui concerne la diffusion des émissions d'expression directe.
Pour ce qui est des réseaux sociaux, on constate que les informations viennent la plupart du temps de compatriotes vivant à l'étranger. Qu'est-ce qui est fait pour rappeler ces derniers à l'ordre également?
En fait, les gens pensent qu'ils sont dans l'anonymat, parce que c'est ça aussi. Mais vous avez même à l'intérieur ici, souvent les gens même voulaient intervenir avec l'anonymat. Maintenant, quand on est hors du pays, on se dit, bon, je peux parler ce que je veux, de toutes les façons, pourquoi mettre la main sur moi? Aujourd'hui, vous voyez, il y a des institutions communautaires, les lois sont en train de s'uniformiser, il y a les instances de régulation aussi qui sont en interaction, il y a la plateforme de l'UMOE de la Guinée, il y a des plateformes, donc les instances de régulation aujourd'hui travaillent en synergie. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut vous interpeller, quel que soit le pays où vous êtes, voilà, que ce soit les instances de régulation ou bien même pénalement aussi, c'est vrai qu'au niveau de la justice aussi, il y a les commissions rogatoires, donc il y a une synergie d'action aussi au niveau de la justice sur le plan international. Donc ça veut dire que nulle part, on est épargné.
Un message pour nos auditeurs?
Le message pour les auditeurs c'est de faire beaucoup attention. Parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un contexte très, 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 très spécial. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut se réjouir de ce que se passe.
C'est la fin de ce journal réalisé par Edwin Tendrebego. Je suis Ibrahim Baïdi. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.